le rayon BD, Yoshiharu Tsuge, la révolution du manga.
Bonjour, pour l'exposition Tsuge, il va y avoir un peu de temps d'attente. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est commencer par voilà, c'est revenir sur Twitter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour un premier retour sur le Festival International de la Bande Dessinée qui s'est achevé dimanche dernier à Angoulême. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des auteurs et des œuvres mises à l'honneur ou récompensées lors de ce festival. Et pour commencer aujourd'hui, une visite de l'exposition consacrée à Yoshiharu Tsuge, immense auteur japonais qui a reçu cette année un fauve d'honneur à Angoulême. Et donc Cornelius publie depuis l'an dernier les œuvres en français. Yoshiharu Tsuge est né à Tokyo en 1937. Il est devenu au milieu des années 60 au sein de la revue Garo, l'une des figures de proue de la bande dessinée japonaise, initiateur entre autres du Watakushi manga, le manga du mois. L'exposition qui lui est consacrée au musée d'Angoulême est intitulée Yoshiharu Tsuge, être sans exister, et elle est visible jusqu'au 15 mars prochain. Nous avions prévu de la visiter avec le fondateur des éditions Cornelius, Jean-Louis Gautet, et Léopold Dahan, le traducteur de ses œuvres, mais les événements ont été quelque peu chamboulés. Yoshiharu Tsuge est en effet venu à Angoulême, ce qui n'était pas prévu, et le programme a été modifié. C'est donc Jean-Louis Gautet qui nous servira de guide dans cette exposition, mais c'est un autre commissaire, Xavier Guilbert, qui nous y accueille.
Certaines personnes disent que dans la bande dessinée japonaise, il y a deux montagnes, hein, Osamu Tezuka et Yoshiharu Tsuge. Pour résumer, pour présenter rapidement, quand il faut trouver une petite formule, j'aime bien dire que Yoshiharu Tsuge est à la bande dessinée japonaise ce que Jean-Luc Godard est au cinéma français. C'est-à-dire, c'est un auteur qui, à un moment, a ouvert pour les auteurs de manga un nouvel éventail de possibles, de choses qu'on pouvait aborder dans la bande dessinée japonaise, notamment en explorant les territoires de l'intime, les territoires du rêve, avec des approches quasi surréalistes. Donc c'est un auteur qui est extrêmement riche et effectivement absolument fondamental.
Cette exposition est conçue sur avec un parcours chronologique. Ça paraît difficile d'envisager l'œuvre de Tsuge autrement, puisqu'il y a vraiment une évolution presque permanente dans son œuvre. Chaque nouvelle, puisqu'il publiait essentiellement des nouvelles, chaque nouvelle marque toujours un pas, une avancée, une découverte.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement une progression chronologique, mais tout en essayant de mettre en avant deux grandes thématiques qui, à notre avis, structurent un petit peu l'œuvre de Tsuge. D'une part, il y a le rapport, bien sûr, à l'intime, et d'autre part, le rapport au voyage, puisque la question du voyage et les récits de voyage sont véritablement essentiels dans son œuvre.
Pourquoi est-ce que la nouvelle est son format, sa forme principale, alors que M. Tsuge passe devant nous, puisqu'il est à Angoulême cette année, mais très protégé, on n'a pas le droit de l'interroger. C'est la première fois qu'il sort du Japon, je crois.
Oui,
il a 83 ans.
Oui, exactement. Pourquoi la nouvelle ? En 1958, il propose un récit qui s'appelle « Les cheminées fantômes », qui est la première fois où, d'une manière assez forte, il exprime son rejet du modèle tezukien, mis en place par Osamu Tezuka. Ce sont des récits qui sont assez longs, qui font entre 90 et 120 pages. Un modèle qui est assez positif. Alors, ce sont des récits qui sont destinés aux enfants, dans lesquels on a des enfants qui sont très vainqueurs de l'adversité. Et lui, c'est totalement opposé à ce qu'il a vécu en tant qu'enfant. Il vient d'une famille plutôt pauvre. Son père meurt alors qu'il est très jeune. Sa mère se remarie avec un homme qui va le battre. Et il est obligé de travailler dès qu'il sort du primaire. Donc, il a une vie qui est difficile. Et lui affirme à ce moment-là le premier rejet de cette bande dessinée tezukienne, et qui est la première fondation de ce qui va être sa recherche ensuite, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut casser les codes pour raconter ce qu'il a véritablement envie de raconter, de témoigner sur les choses que lui-même a vécues.
Est-ce qu'il y a, vous, Xavier Guilbert, une nouvelle, une planche dans cette exposition qui est pour vous importante, qui a été extraordinaire à découvrir, à exposer, à regarder de très près ?
On a trois histoires complètes qui sont exposées ici, et il y en a une qui effectivement est très chère, qui est « Les fleurs rouges ». Parce que c'est dans une œuvre qui est quand même assez marquée par la noirceur, on s'amuse pas trop dans l'œuvre de Tsuge, c'est une œuvre qui est véritablement lumineuse, qui est assez cristalline, qui graphiquement est absolument superbe. C'est une œuvre de voyage, à un moment le voyage reste encore la source d'une forme de satisfaction avant de devenir Il y a quelque chose qui se casse vers 1968 avant de devenir finalement plus une source d'amertume, ce qui le poussera ensuite à se tourner vers une démarche introspective et à aborder de plein pied un projet plus autobiographique et plus directement autobiographique.
Qu'est-ce que ça raconte, les Fleurs Rouges ?
Les Fleurs Rouges, c'est donc un personnage qui voyage et puis il rencontre une jeune fille. Et ce qui est au cœur du truc, c'est que cette jeune fille va avoir ses premières règles. Elle a mal au ventre, elle se met dans l'eau d'une rivière pour que le sang des règles s'en aille. Et au moment, il y a des fleurs rouges d'un arbre qui tombent dans la rivière et qui s'en vont au fil de l'eau. Et il y a un petit garçon qui regarde ça et qui dit « Ah, ce sont des fleurs rouges ». Et ensuite, la fille dit « Non, viens pas, j'ai mal au ventre, ne viens pas, etc. » Il y a ce moment-là qui est un moment extrêmement poétique, qui est saisi avec beaucoup de subtilité et de beauté. Voilà, c'est un moment lumineux dans une œuvre qui est très sombre.
Vous l'avez dit, le voyage, c'est une des sources de satisfaction de Tsuge, qui a eu un peu toute sa vie la tentation de la fuite, et qui partait quelquefois, qui disparaissait, qui s'évaporait à la campagne, dans les campagnes japonaises, avec un goût pour les rencontres des populations rurales, des paysans. Il y a aussi un travail de traduction qui a été mené par Léopold Dahan, qui est un des co-commissaires de cette exposition. Tout un travail sur le langage, les accents, les tournures de phrases. Ça, c'est une prouesse de traduction. Vous en avez parlé avec Léopold Dahan ?
Oui, on en a discuté et effectivement, il a expliqué la difficulté. Alors, il y a la difficulté de représenter comme ça des patois et des dialectes qui sont toujours très présents au Japon, sans tomber dans la caricature, comme ça peut être le cas. Après, ce qui était le plus difficile, je pense, pour lui, dans la traduction, enfin du moins ce qu'il en dit, c'est que c'est une œuvre qui laisse beaucoup de place à l'interprétation, où il y a beaucoup d'interstices. C'est une œuvre qui, c'est aussi pour ça qu'elle fascine, hein, c'est qu'on ne cesse, en se penchant dessus, on ne cesse de redécouvrir des détails qui remettent en question une interprétation et qui laissent découvrir de nouveaux sens cachés. Le japonais, pour ça, a une langue qui peut être très évasive, hein, alors que le français a un côté parfois très précis, et c'est réussir à retrouver, retranscrire ce côté évasif et laisser ces interstices aussi pour que le lecteur français puisse s'y plonger. Après, l'une des choses qu'il faut saluer, tout autant pour Léopold que son éditeur, les éditions Cornelius, c'est le fait d'avoir accepté et voulu même mettre un appareil critique qui permet au lecteur d'aujourd'hui de comprendre aussi les enjeux qu'il pouvait y avoir pour la publication de tel ou tel récit dans le Japon des années 60 et 70.
Merci Xavier Guilbert, puisque vous évoquez les éditions Cornelius. Nous allons commencer la visite de cette exposition avec Jean-Louis Gautet qui est là. Donc je vous laisse peut-être retrouver M. Tsuge qui est très protégé, très entouré, comme un grand maître. Jean-Louis Gautet, on a avancé un peu dans l'exposition pour fuir le monde, puisqu'on est à l'ouverture de l'exposition, et vous êtes en train de regarder des planches en couleur de Tsuge, que vous n'avez pas encore édité chez Cornelius, mais que vous allez normalement éditer dans les prochains mois ou les prochaines années.
Oui, parce qu'on fait donc une... C'est pas une intégrale, ça serait malhonnête de dire ça, c'est plutôt une œuvre qui s'intéresse à Tsuge à partir du moment où il devient Tsuge, où il fait le choix de devenir Tsuge, puisque... Tsuge, il a trois temps dans sa carrière. En fait, il y a un premier temps qui est un temps où il est un artisan. Il lutte pour survivre en produisant de la bande dessinée en quantité pour un système de librairie de prêt.
Vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est que ce système de librairie de prêt ?
Bien sûr. Alors, c'est un système très spécifique au Japon qui s'est développé dans l'après-guerre. Des éditeurs produisaient des livres qui étaient destinés donc, à un réseau de librairies mais qui ne faisaient pas de vente. On venait louer le livre.
Puisque le livre était un objet trop cher pour les Japonais.
C'est ça, le livre était beaucoup trop cher et il n'y avait pas non plus de bibliothèque publique en ce temps-là. Donc c'était une espèce de mélange assez étrange entre donc, une librairie et une bibliothèque. Alors Tsuge travaille à ses tout débuts, pendant plusieurs années, dans ce système de librairie de prêt qui était un système qui ne permettait pas véritablement de vivre mais de survivre. Il y a un témoignage très intéressant là-dessus, c'est celui de Yoshiro Tatsumi. Dans Une vie dans les marges.
Yoshiharu Tatsumi, vous pouvez nous dire qui c'est ?
Alors, Yoshiharu Tatsumi est un auteur qui a inventé un mouvement majeur de la bande dessinée japonaise qui s'appelle le Gekiga. Et donc, ce mouvement a été pensé, voulu, conceptualisé par Tatsumi et quelques amis proches pour rompre avec le manga de Tezuka. Quand je dis le manga de Tezuka, c'est le manga qu'incarne Tezuka, évidemment, c'est-à-dire celui qui s'adresse plus directement aux enfants. Tatsumi, lui, évidemment, même s'il était un grand amateur de Tezuka et que Tezuka était d'une certaine manière son mentor, il veut sortir de ça, il veut aborder des thèmes sociaux, des thèmes politiques. À ce moment-là, c'est dans les années 50, la société donc est en train de se réinventer complètement. L'essor économique, il faut bien le comprendre, a aussi un versant obscur, qui est celui des sacrifices que doivent accepter les populations japonaises pour que le pays se remonte. Et donc il y a énormément de gens qui vivent dans les rues et dans des conditions de survie extrême qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Tatsumi donc fait le Gekiga, qui est donc une bande dessinée très noire, très dure, brutale, parfois violente, et qui peut du coup explorer des voies assez différentes. Ça va donc de ce qu'on peut appeler le roman noir, ou même le pulp.
Ou le polar,
peut-être plus encore le polar, jusqu'à des témoignages, des sortes de témoignages indirects de ce que c'est que la vie à cette époque-là, dans ce Japon. Donc Tatsumi, dans son autobiographie qui s'appelle Une vie dans les marges, fait un excellent récit de ce que sont les conditions de vie des auteurs à cette époque, quand ils travaillent pour les librairies de frais. Pour revenir à Tsuge, Tsuge est l'un de ses auteurs, l'un de ses auteurs presque anonymes. Le nom ne compte pas, finalement. Il produit des centaines et des centaines de pages. Et puis, il n'arrive pas à s'en sortir, ça fragilise son mariage, il fait une tentative de suicide, et il arrête de dessiner pendant un an. Et au bout d'un an, c'est Shirato Sanpei, qui est donc un des auteurs majeurs de la bande dessinée d'après-guerre. Donc c'est lui qui vient chercher Tsuge et qui lui dit « Viens travailler pour Garo », c'est une nouvelle revue qui s'est créée et qui a des ambitions plus intellectuelles, plus expérimentales, plus artistiques que tout ce que tu as pu connaître avant. Et je suis l'un des cofondateurs de ce magazine. Et là, Tsuge trouve effectivement à se réinventer, en tout cas à s'exprimer comme il n'avait jamais pu le faire auparavant. Et il change même, non pas son nom, mais la graphie de son nom. Et évidemment, cet engagement artistique total va avoir des implications sur sa vie personnelle. Et donc tout s'imbrique et il est transformé par son art, mais son art est transformé par cette mutation. Et les mutations chez Tsuge, elles sont nombreuses, en tout cas elles sont au moins au nombre de trois. Il y a ce passage des réseaux de librairies de prêt à Garo. Et ensuite à Garo, il connaît une mésaventure qui est que ses premiers récits, où il est très libre, indispose certains lecteurs, en particulier l'histoire Chico, qui est l'histoire d'un petit oiseau, et l'histoire Le Marais, qui est publiée le mois d'avant.
Est-ce qu'on peut aller devant les planches de ces deux histoires qui sont dans cette exposition ?
France Culture, le rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
Le Marais, c'est une histoire qui a beaucoup décontenancé les lecteurs parce que le vocabulaire de Tsuge se met en place et il est en rupture totale avec ce qui se fait à l'époque, où les narrations sont quand même assez classiques, relativement fluides, pour permettre au lecteur de bien suivre. Tsuge, lui, c'est pas ça du tout. Tsuge, il évoque les choses. Et là, on le voit très bien dans les pages. Il y a chez lui un jeu, véritablement, sur dedans-dehors, ouvert-fermé. Et ça se retrouve aussi dans sa narration, qui est extrêmement ouverte, puisque Le Marais se termine sur cette page qu'on voit ici, donc une pleine page où c'est simplement un garçon dont on ne voit pas le visage qui tire vers des arbres. Alors est-ce qu'il tire au-dessus des arbres? Est-ce qu'il tire dans les arbres? Est-ce qu'il a vu quelque chose? On ne le saura jamais. L'histoire s'interrompt de façon brutale à ce moment-là. Ça, les lecteurs n'étaient pas du tout habitués à ce qu'on leur raconte une histoire dans laquelle rien ne semble véritablement s'enchasser et où les rapports entre les personnages restent puissamment énigmatiques.
Ça commence avec une jeune femme au bord d'un marais, donc avec au centre de cette première image, le vide, l'eau qui est donc blanche, et des alentours très noirs. Une jeune femme qui trouve un canard blessé et qui va lui tordre le cou. Puis elle rencontre un jeune garçon, on ne sait pas si c'est sans doute lui qui a tiré sur ce canard, il semble. Alors, tout est hypothétique. Ces deux personnages vont ensuite dans une maison où ils vont dormir ensemble et la jeune fille explique qu'elle rêve parfois qu'un serpent s'entoure autour de son cou et que quand le serpent serre, elle a un grand plaisir et le garçon, pendant le sommeil de la jeune fille, va lui serrer le cou. Au matin, elle aura disparu et puis ensuite il y a cette dernière planche que vous nous avez décrite de cet homme, sans doute ce garçon, qui tire vers on ne sait pas quoi. C'est très suggestif, à la fois il y a un érotisme assez évident, même s'il n'est pas explicite, un érotisme d'ailleurs assez, sinon morbide, un peu macabre, puisqu'on se demande si ce n'est pas une tentative d'assassinat.
Est-ce que même il ne s'agit pas d'un rêve de l'un des deux personnages qui rêve de l'autre ? On ne peut pas le savoir. Il y a évidemment cet érotisme qui n'est pas non plus commun du tout à l'époque dans ce type de publication, un érotisme qui n'est pas sans évoquer l'eroguro. Donc il y a un mouvement artistique japonais dans lequel le cauchemar, l'affreux, le monstrueux se mélange avec le sexe. Ça a donné beaucoup d'estampes. Et puis, bon, alors évidemment, pour un psychanalyste, c'est du pain béni, parce que c'est vraiment jalonné de symboles sexuels. La dernière page, évidemment, étant une éjaculation. Alors, probablement une masturbation, même ça, on ne le saura pas. Mais, de toute façon, les lecteurs japonais, c'est pas du tout ça qu'ils ont considéré. C'est simplement, l'histoire est distordue. Il n'y a plus de certitude. Et donc, ils sont confrontés à quelqu'un qui leur raconte une histoire, mais qui n'y met pas les formes, qui n'est pas poli, qui ne raconte que ce qu'il veut, et qui donc, en faisant ça, leur dit « Écoutez, vous, vous êtes les lecteurs, moi, je suis un artiste. » Et ça, c'est un rapport qui n'existait pas auparavant. Dans le système japonais antérieur, on peut estimer que le lecteur avait plutôt une position de client à laquelle l'artiste était sommé de répondre sous la pression de l'éditeur. Donc c'est très très nouveau, et c'est ce qui entraîne des réactions extrêmement négatives, beaucoup avec Le Marais, et peut-être même plus encore avec Chico, parce que c'est donc là, c'est une autre histoire qui reste très ouverte et très fermée pour le lecteur. Et peut-être que l'exaspération est à son comble, et là, ils écrivent des courriers, et Tsugi est mis au courant que ces réactions existent. Et ça le désespère, ça le déprime, il se sent incompris, il s'en va. Entre parenthèses, c'est un temps qu'il met à profit pour aller travailler avec Mizuki, donc Shigeru Mizuki, qui est donc le créateur de Kitaro et qui est un immense auteur de la bande dessinée japonaise.
Que vous publiez aussi chez Cornelius.
Que je publie aussi. Mizuki était quelqu'un de très attentif à Tsugi, de très généreux aussi. Il a su exploiter intelligemment le talent et la personnalité de Tsugi. L'inverse étant vrai aussi, puisque le style de Tsugi se modifie considérablement après cette année à travailler intensément aux côtés de Mizuki.
Jean-Louis Gautet, il y a beaucoup de nouvelles de Tsugi que vous publiez chez Cornelius. Là, nous sommes arrêtés devant une qui vous semble très intéressante. Vous allez nous dire pourquoi. J'avais prévu de vous interroger sur cette nouvelle, La Salamandre, parce qu'elle est, étonnante. On dit qu'elle compte, puisque c'est la première fois que le « je », alors là, le « je », la première personne du singulier, apparaît dans une bande dessinée. Pour autant, le personnage central est une grosse salamandre assez répugnante qui vit dans des égouts putrides. Pourquoi est-ce que pour vous, elle est importante et intéressante, cette nouvelle, La Salamandre ?
Alors déjà, c'est une nouvelle que j'aime beaucoup, à titre personnel, sans pouvoir l'expliquer, mais moi je trouve cette salamandre plutôt mignonne. Certes, elle vit dans une sorte d'enfer d'eau et de détritus, mais sa forme assez ronde, et puis le fait que ce soit elle qui parle, c'est la salamandre qui pense, on entend donc la voix intérieure de la salamandre qui s'interroge sur sa vie, qui commande ce qu'elle voit, elle découvre des choses, elle s'interroge, elle a l'air très, très naïve, très candide, un peu perdue. Elle fait écho à un autre auteur que je publie et que j'aime beaucoup, qui est Tatsumi. Tatsumi, dans les années, à la fin des années 50, début années 60, a fait une histoire qui est très connue, très célèbre, extrêmement dure, qui voit une femme jeter dans les égouts un nouveau-né, car elle n'a pas du tout la capacité de l'élever, de le nourrir, sa situation personnelle étant déjà suffisamment difficile. Et dans cette histoire, Tsugi fait référence à cette histoire de Tatsumi, c'est parfaitement clair. Cette salamandre, d'ailleurs, je veux pas trahir le truc, mais cette salamandre fait une découverte dans les égouts qui évoque très directement l'histoire de Tatsumi. Alors, effectivement, il y a une petite révolution là-dedans, et c'est moins le fait que ce soit un animal qui parle, ce qui a quand même beaucoup heurté, intrigué, exciter les lecteurs, c'est que le jeu apparaît et que le jeu, en plus, c'est cette salamandre. Alors, est-ce que cette salamandre est l'auteur ou pas ? Ça, on s'en fiche, parce qu'on est face à une décision artistique qui n'est pas sans évoquer Charles Dickens avec David Copperfield, qui est le premier grand jeu de l'histoire du roman anglais, où il invente même l'autobiographie cryptée. Cette salamandre, c'est le David Copperfield de Tsugi.
Jean-Louis Gautet, on ne peut pas parler de toutes les nouvelles de Tsugi. Il y en a une qui est absolument incontournable, qui est une grande révolution. C'est cette nouvelle qu'on va aller voir maintenant, qui s'appelle La Vis. Bon, on va aller devant les planches.
Alors cette histoire, elle a beaucoup, beaucoup perturbé les lecteurs de l'époque. Ça a été vraiment une détonation dans le monde du manga. Il faut comprendre qu'elle vient à un moment très, très précis. Tsuge est revenu travailler dans Garo après avoir interrompu sa collaboration avec le magazine pendant un an. Il a repris confiance en lui en travaillant aux côtés de Mizuki. Son style a changé, il est plus détaillé. D'ailleurs, il n'hésite pas à tenter graphiquement énormément de choses. Parfois, il va vers le détail. Parfois, au contraire, il l'enlève. Il peut même aller vers une forme d'abstraction dans certains cas. Il joue aussi avec la graphie des mots. Donc, il se trouve que quand il revient dans Garo, ses histoires ont été un peu digérées par les lecteurs. Et le ton a changé. D'ailleurs, l'époque a changé. Et il n'est plus considéré comme quelqu'un d'aussi étrange, mais comme quelqu'un de simplement très talentueux, de très novateur. Il est mieux accueilli.
D'ailleurs, cette nouvelle Lavis figure dans le premier hors-série de la revue Garo. Tsuge a 31 ans, mais il est depuis 3 ans seulement à Garo. Mais le hors-série lui est intégralement consacré, ce qui prouve déjà quand même son poids.
Tsuge n'est pas encore très connu. Il est moins décrié, mais il n'est pas du tout la star qu'il est devenu par la suite. Et ce numéro contient cette histoire qui est la seule histoire inédite de cette petite anthologie de tout ce qui était paru auparavant dans le magazine. Et elle a un impact énorme sur les lecteurs et plus que les lecteurs sur les autres artistes. Des écrivains, des artistes, des critiques, des philosophes, des sociologues s'intéressent à cette histoire et très rapidement sont produits des commentaires, des textes autour de Lavis. Alors Tsuge, lui, à ce moment-là, ça l'amuse parce que son inspiration d'origine, elle est très simple, c'est qu'il n'en avait pas. Il devait faire cette histoire pour répondre à la demande de l'éditeur et il était un peu à sec. Et donc il s'est laissé emporter par des réminiscences de certains de ses rêves et aussi par des images qui l'intéressaient et qu'il avait pu trouver dans différents magazines. Des photos. Comme ici par exemple, hein, cette rue avec des gens assis, le train aussi. Des lecteurs ont été déçus de découvrir qu'il s'était servi de documentation. Moi, je trouve que ce qu'il a fait de cette documentation est simplement prodigieux. Et le simple fait de faire cet emprunt est déjà une grande ouverture, justement, artistique. Il se détache totalement du fait qu'il doit se conformer à un vocabulaire qui serait celui de la bande dessinée. Et il va vers quelque chose qui est plus la photo, l'interpénétration de la photo et d'autres domaines du champ plastique.
Cette histoire s'ouvre donc sur un jeune garçon qui sort de l'eau, qui s'est fait mordre par une méduse. Au-dessus de lui, il y a un avion assez massif, une sorte de bombardier en noir. Et il s'est fait mordre, une veine de son bras s'est ouverte. Et il va errer à la recherche d'un médecin. Et finalement, on lui posera sur la veine de son bras gauche un système de vis en vissant les deux bouts de son artère. C'est une histoire très irrationnel, très onirique, vous l'avez dit. Ici, Jean-Louis Gotel, dans cette exposition, quand on est devant ces planches mises côte à côte, ce qui frappe aussi, c'est le caractère très composite et très hétéroclite, j'allais dire, d'une page à l'autre. Il y a des images avec des ombres sur fond blanc, il y a des images très ancrées, ce train en double page, très noir, énormément de petits traits. Il y a des images qui sont très réalistes, d'autres qui sont très caricaturales. C'est aussi ça, c'est aussi quelque chose qui a choqué, qui a dérangé, cette espèce d'explosion d'un style, d'une esthétique.
Il avait déjà habitué les lecteurs à les déstabiliser. Et là, pour le coup, je pense qu'il les a pris par surprise et ils n'étaient même plus en mesure de critiquer. C'était l'ouverture d'une porte vers autre chose. Les premiers mots de l'histoire, de toute façon, posent bien ce que c'est que l'enjeu, puisqu'il parle d'une méduse, d'une mémé-méduse. Donc en fait, en japonais, c'est une méduse mémé. Ça n'existe pas. L'animal n'existe pas, pas plus en français qu'en japonais. Et en disant ça, dès la première bulle, il sait très bien qu'il dit au lecteur, bon, on va ailleurs. Hein.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des mémé-méduses par ici. Même voilà. Pour lui, c'est une surprise.
Mais le lecteur ne s'attendait pas à cette histoire. Le personnage change même quasiment de structure. Il est très sec, il devient très mou, presque comme une méduse. Il déambule dans des décors qui n'ont aucune connexion les uns avec les autres. On est dans un rêve. En tout cas, on est dans un récit qui prend la forme d'un rêve. Et ce rêve, évidemment, c'est celui de Tsuge d'abolir toutes les limites du genre dans lequel il s'inscrit.
Jean-Louis Lyotet, cette exposition est très riche. Alors on a avancé, on est passé devant un dernier chapitre qui était sans doute celui qui était le plus connu des lecteurs français, puisque c'était la première œuvre de Tsuge traduite. C'était chez Ego Comics au milieu des années 2000. Et ça a été repris par Atrabile récemment, L'homme sans talent, un récit aussi un peu long, avec des chapitres, mais avec un personnage central, dans lequel Tsuge sort de la nouvelle proprement dite. Il faut dire que L'homme sans talent a été publié au milieu des années 80 par Tsuge, qui avait 49 ans, et qu'il s'est arrêté, il n'a plus rien publié depuis. Vous, chez Cornelius, vous allez continuer votre travail d'édition méthodique, j'allais dire, de l'intégralité des œuvres de Tsuge à partir du moment où il est devenu Tsuge.
Le prochain volume est très intéressant puisque c'est le volume qui voit Tsuge quitter Garo et prendre totalement son autonomie artistique et financière. C'est-à-dire que c'est lui qui décide avec qui il va travailler et il donne des histoires à gauche, à droite, il se consacre beaucoup au voyage. Chaque histoire est un nouvel enjeu artistique. Souvent graphique d'ailleurs, son style a tendance à beaucoup changer. Vous voyez que d'ailleurs, dans ces pages, là on a 80 jusqu'à 87, donc c'est plus tardif que le prochain volume que nous allons publier, mais son style oscille entre une forme de réalisme détaillé et puis quelque chose qui peut s'apparenter à une forme de ligne claire. Il y a aussi, dans le milieu des années 70, des histoires où il va totalement déstructurer son dessin, recherchant presque un dessin laid. Un dessin qui va heurter. Évidemment, côté lecteur, il y a l'idée que peut-être Tsuge perpétuellement cherche à choquer et puis veut provoquer. Ce n'est pas vrai. Dans cette période-là, Tsuge, il a déjà finalement obtenu ce qu'il cherchait et il a réalisé que provoquer le lecteur, le faire réagir, changer la façon de raconter, ce pari-là, il l'a gagné. Il l'a emporté. Et après, il est plutôt dans un défi vis-à-vis de lui-même. Comment raconter, comment se réinventer soi-même pour soi. Et c'est ce qui va l'amener à dessiner de moins en moins, à choisir aussi de privilégier l'écriture. Il produit beaucoup de textes, des livres sont parus, des récits de voyage notamment, avec des réflexions, des notations. Il s'éloigne de la bande dessinée, sa vie personnelle est compliquée. Et peu à peu, je pense que très sagement, il décide qu'il fait comme son personnage, il s'éloigne, il s'en va. En tout cas, il quitte les lecteurs, il quitte le champ de la communication.
Vous aimeriez ou vous auriez aimé lui poser peut-être une question?
Je crois que, de toute façon, je vais le voir cet après-midi. J'ai plus envie de parler avec lui de cuisine ou de voyage. Et puis de savoir s'il va bien.
Merci beaucoup, Jean-Louis Lyotet.
Découvrir les œuvres de Yoshiharu Tsuge, elles sont publiées aux éditions Cornelius, 3 tomes parus à ce jour, et L'homme sans talent est disponible aux éditions Atrabile. Le rayon BD s'est terminé pour aujourd'hui. Comme chaque semaine, l'émission était préparée avec Pascaline Bonnet. Assia Khalid était aujourd'hui à la réalisation pour une émission mixée par Philippe Mercher. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.